Chers auditeurs, dans les articles organiques qu'il avait ajoutés au texte du Concordat, Bonaparte prévoyait qu'il n'y aurait qu'une seule liturgie et un seul catéchisme pour toutes les églises catholiques de France. Ce catéchisme fut publié à Paris en 1806. Rédigé en grande partie par l'abbé d'Astros, futur évêque de Bayonne, il s'inspirait largement de celui de Bossuet. En janvier 1807, Mgr Loyson publia cet ouvrage en français et en basque pour être seul enseigné dans son diocèse. Il eût été embarrassant pour tous, écrivait-il, de conserver les catéchismes des 9 diocèses dont se compose celui de Bayonne. Mgr Loyson demandait donc à ses prêtres de recevoir sans discussion ce nouveau catéchisme où, disait-il, la doctrine de l'Église était distribuée dans un ordre admirable. Dans la pensée de Napoléon, ce catéchisme devait aider surtout à l'acceptation de son autorité par tous les Français. Il avait confié à Bernier le soin de rédiger le chapitre sur le 4e commandement qui comprenait les devoirs envers l'empereur. Le texte de l'évêque d'Orléans parut tout à fait insuffisant à l'empereur et l'ouvrage parut finalement avec les corrections et les additions que Napoléon lui-même y avait faites. En 10 lignes, qu'il fallait apprendre par cœur, bien sûr, étaient énumérés les devoirs envers Napoléon Ier, notre empereur. 15 autres lignes justifiaient ses devoirs par des raisons se fondant sur le choix dont Napoléon était l'objet de la part de Dieu. 10 autres lignes étaient nécessaires pour exposer les motifs particuliers qui doivent nous attacher à Napoléon Ier, notre empereur. Ce catéchisme parut donc en basque navarro-labourdin. Mgr Loyson en ordonna également la publication en sous-latin, mais dans une formule abrégée quant aux devoirs envers l'empereur, parce que dans certaines régions, on avait trouvé le catéchisme officiel trop long. Évidemment, à la chute de l'Empire, Mgr Loyson remit les anciens catéchismes en vigueur et il condamna énergiquement celui de l'Empire. Il avait, disait-il, été à peu près forcé de l'adopter, d'autant plus que ce catéchisme portait le sceau du Saint-Père. Or, en 1814, il avait des raisons de croire que la copie soumise en 1806 à l'approbation du pape était inexacte et tronquée. On peut être surpris des raisons qu'avance l'évêque de Bayonne pour s'excuser d'avoir adopté le catéchisme impérial. Ce que Mgr Loyson pensait profondément, c'est que l'évangélisation avait besoin de la bonne entente des prêtres entre eux. Les difficultés entre réfractaires et constitutionnels étaient apaisées, ou du moins en sommeil. Mais d'autres pouvaient naître des nouvelles dispositions canoniques, par exemple, entre curés et desservants. Mgr Loyson va leur rappeler que les desservants sont des pasteurs à part entière, même si les curés ont un droit de regard sur eux qu'ils devront exercer selon les normes établies par l'évêque. Le clergé, dans sa très grande majorité, était à la hauteur de sa tâche. Pour beaucoup, surtout au Pays basque, il avait mûri dans les épreuves et ceux qui avaient prêté le serment mettaient beaucoup de cœur à le faire oublier. On pourrait citer l'exemple de l'abbé Di Araçari, ancien curé constitutionnel d'Espelette et que Mgr Loison avait nommé dans cette même paroisse. Il avait conquis tous les cœurs par son désintéressement, son zèle et sa charité, et il lui arrivait de confesser et de pleurer sa faute passée devant les fidèles avec l'accent d'un profond repentir. Les préoccupations pastorales des prêtres dépendaient bien sûr du contexte légué par la Révolution. Il s'agissait pour eux de faire revivre la foi chrétienne dans des esprits encore sous le charme des Lumières et parfois sous la dépendance des pourfendeurs du fanatisme et de la superstition. Il s'agissait de faire accepter les exigences de la morale traditionnelle à des personnes qui avaient goûté à la liberté et souvent à la licence des mœurs. On avait beaucoup dansé, même au Pays Basque, autour de l'arbre de la liberté. Mais il est permis de penser que de nombreux fidèles avaient retrouvé le chemin de l'Église et que se développait parmi eux une authentique vie de foi. En témoigne le nombre grandissant de jeunes gens entrant au séminaire et celui des ordinations en constante progression. Dans le mandement de Carême 1810, à partir des souhaits qu'il formule, Mgr Loison révèle les grands axes de l'activité pastorale de son clergé, essentiellement effacer les séquelles de la Révolution. Quelle satisfaction pour nous, écrivait-il, si à la fin de cette sainte quarantaine, nos coopérateurs pouvaient nous apprendre que les anciennes infractions ne s'étaient plus renouvelées, que de grands scandales avaient été réparés, que des conversions éclatantes avaient consolé l'Église, que le retour d'un très grand nombre avait été signalé par la participation au sacrement de l'autel après d'édifiantes réparations. De tels résultats étaient généralement réservés aux missions paroissiales. Celles-ci avaient prospéré dans le diocèse de Bayonne durant le XVIIIe siècle avec M. l'abbé Daguerre. Au début du XIXe, on assiste en France à une relance des missions, d'abord contrariée par le gouvernement impérial, puis à partir de 1815, encouragée par le pouvoir royal. Elles auront du mal à revivre au diocèse de Bayonne, du moins à l'intérieur du Pays Basque et même au Béarn, en raison de la langue. Elles y fleuriront à nouveau quand seront constitués des groupes de missionnaires issus du clergé local. Le 3 mars 1819, Mgr Loison annonçait l'ouverture d'une mission à Bayonne. Il fit appel pour cela aux Missionnaires de France, une société fondée par l'abbé Rosan, un prêtre de Bordeaux. La mission s'ouvrit le 21 mars 1819 dans les deux églises de Bayonne, la cathédrale et Saint-André, et à l'église du Saint-Esprit. Les prédicateurs abordèrent avec leur fougue habituelle et les mises en scène qui leur étaient coutumières les grandes vérités, c'est-à-dire les fins dernières de l'homme. Il revint au père Leuvenbruck de prêcher sur l'enfer. Il le fit avec une telle éloquence, nous dit le chroniqueur de l'époque, qu'à la fin, l'auditoire se leva spontanément et se mit à crier « Miséricorde, miséricorde, ayez pitié de nous !» Mais dès les premiers jours de la mission, des réactions hostiles se manifestèrent dans la population sous forme de pamphlets. Ils mettaient en cause le père Rosan et ses collaborateurs, la vie luxueuse, leur vie luxueuse dénonçait les fêtes spectaculaires qu'ils organisaient pour des résultats insignifiants. Ils étaient accusés d'être venus à Bayonne pour s'enrichir, pour y combattre les idées gallicanes et y introduire les idées ultramontaines et, plus grave que tout, on les soupçonnait d'être des jésuites clandestins. La mission trouva cependant sur place des défenseurs qui prirent la plume pour en décrire les bienfaits. Quant à Monseigneur Loison, il garda le silence tout le temps de la mission, se contentant d'assister assidûment aux divers exercices, et quand tout fut terminé, il publia une lettre pastorale pour prendre la défense des missionnaires, les remercier et rappeler leur parfaite orthodoxie et leur désintéressement. Pendant le séjour des missionnaires dans cette ville, pouvait-on lire dans cette lettre, nos églises suffisaient à peine au concours empressé qui suivait leurs exercices religieux et les larmes des justes s'y mêlaient à celles des pécheurs attendris. Les tribunaux de la pénitence, ouverts nuit et jour au repentir, attestaient des suites heureuses des instructions qu'il avait provoquées. Quel spectacle touchant pour les amis de la religion de voir plus de 2000 hommes à la fois admis au banquet sacré. Nous verrons la prochaine fois la fin de l'épiscopat de Mgr Loison et le début de celui de son successeur, Mgr Dastros.